France Culture, il est midi et demi, bienvenue à tous. Le journal Thomas Cluzel, bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. 60 millions d'Italiens priés de rester chez eux depuis ce matin. Rome applique des mesures sans précédent dans le monde pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. De son côté, la Chine semble voir la fin du tunnel, comme en témoignerait le déplacement aujourd'hui pour la première fois du président Xi Jinping à Wuhan, épicentre du Covid-19. De son côté, l'OMS reconnaît que la maladie qui a déjà tué plus de 4000 personnes dans le monde est proche de la pandémie.
Et puis en France, le ministre de la Culture, Franck Riester, a lui été testé positif au coronavirus.
Oui, dans l'Hexagone, la maladie a encore progressé vers le stade de l'épidémie causant au moins 25 morts.
À l'étranger et dans votre journal également Thomas Cluzel, l'Afghanistan, pays en guerre, qui se retrouve à présent plongé dans une crise institutionnelle.
Ashraf Ghani, vainqueur de la dernière présidentielle, et son principal rival Abdullah Abdullah, lequel revendique également la victoire, se sont tous deux déclarés présidents hier, et ce alors même qu'à Oslo sont censés débuter aujourd'hui des négociations de paix inter-afghane. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Eric Fotorino, journaliste, cofondateur du 1 et 2 Zadig, et auteur de La presse est un combat de rue, publié aux éditions de l'Aude. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Comment maîtriser nos peurs et ne pas confondre rumeurs et informations? L'information, elle est centrale, elle est essentielle aujourd'hui. On va en parler avec notre invité, le sociologue Gérald Bronner, auteur de La démocratie décrédule et de Déchéance de rationalité. Il nous rejoindra dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. On savait déjà qu'une guerre mondiale était en cours contre le coronavirus, mais depuis ce matin et pour la première fois, l'ennemi invisible a transformé un pays tout entier en zone protégée. Conformément au décret signé hier par le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, ce sont à présent 60 millions d'Italiens qui sont priés de rester chez eux. Seuls les déplacements répondant à des impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d'urgence étant autorisés. Fermeture des écoles et des universités, suspension de tous les événements sportifs, interdiction des rassemblements public sur toutes les routes, dans toutes les gares, tous les aéroports, tous les ports du pays. Les forces de l'ordre veillent, appelées à dénoncer tous les contrevenants passibles de crimes contre la santé publique et qui n'auraient pas téléchargé leur formulaire d'auto-certification, sésame désormais indispensable pour parvenir à se déplacer. Et comme en temps de guerre, dès hier soir, les supermarchés ont été pris d'assaut dans nombre de grandes villes du pays. Ou quand l'Italie, membre du G7, troisième économie de la zone euro, devient ainsi le premier pays de la planète à généraliser des mesures aussi draconiennes pour tenter d'enrayer la progression de l'épidémie. Avec 97 décès supplémentaires en seulement 24 heures, la péninsule dénombrait hier soir 463 morts liés au coronavirus pour un total de 9172 cas confirmés. Soit le deuxième pays au monde le plus touché par le Covid-19 après la Chine. Bruce de Galzin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Rome. Quelle est tout d'abord, Bruce, l'ambiance ce matin dans le pays?
Eh bien, Milan était déjà vide ce matin. Les rues de Rome sont quasi désertes. Celles de Florence également. Dans toutes ces villes, pourtant musées à ciel ouvert, il n'y a pratiquement plus personne sur les places. À peine quelques dizaines sur la place Saint-Pierre au Vatican avant qu'elle ne soit finalement fermée. Et alors que le soleil brille dehors, certains commerçants se demandent aussi s'il ne faut pas fermer boutique, car les règles à respecter sont drastiques. Interdiction de tout rassemblement, même en plein air, il faut éviter de se déplacer. Cinéma, théâtre, gymnase, tout est fermé, et même les bars et restaurants à partir de 18h, les centres commerciaux le week-end aussi, en semaine bien entendu, il est possible de faire ses courses. Mais les familles se demandent si elles peuvent aller au jardin public avec leurs enfants par exemple. Ce qui est très clair en tout cas, c'est l'assignation à domicile de tous les porteurs du coronavirus.
Alors il faut préciser, Bruce, que ce décret inédit, lequel intervient 48 heures seulement après les premières mesures drastiques concernant la Lombardie et la Vénétie, a été pris parce qu'à la différence du Nord, justement, les régions du Sud, elles, ne sont pas du tout prêtes à affronter cette crise.
Oui, en fait, c'est la fuite des milliers d'Italiens qui étaient en vacances ou en déplacement dans le Nord vers leur région d'origine, les Pouilles ou la Sicile, qui a amené le gouvernement à faire de toute l'Italie une zone protégée. Car c'est bien le Sud qui inquiète. Si le virus s'y propage davantage, il ne pourra pas faire face. Il n'y a que 5000 lits en soins intensifs dans tout le pays. 5000 supplémentaires sont attendus, car déjà la Lombardie est débordée avec un besoin de 3000 lits dans les 15 jours qui viennent si l'épidémie n'est pas freinée. certains médecins choisissent même de soigner leurs patients en fonction de leur espérance de vie.
Merci Bruce de Galzin en direct de Rome. Alors on l'a dit, jusque-là aucun pays n'avait pris de telles mesures à l'échelle de tout son territoire. Même en Chine, les quelques 50 millions de personnes confinées à leur domicile depuis la fin janvier le sont dans la seule province de Hubei, d'où est partie l'épidémie. Et d'ailleurs, signe d'un possible retour espéré à la normale, le président chinois Xi Jinping s'est lui-même rendu aujourd'hui en visite à Wuhan, l'occasion pour le régime jamais avare de propagande et accusé, qui plus est, d'avoir trop tardé à réagir après l'apparition du nouveau coronavirus, d'expliquer aux habitants de cette ville entièrement bouclée que les mesures de confinement ont porté leurs fruits. Depuis quelques jours, le nombre de nouvelles infections journalières est en chute libre sur le sol chinois. Ce mardi encore, les autorités ont rapporté seulement 19 nouveaux cas, soit la progression quotidienne de la maladie la plus faible depuis le mois de janvier. À l'inverse, l'épidémie s'étend aux États-Unis. Là-bas, plus de 670 cas, dont 26 mortels, ont été répertoriés jusqu'à présent dans une trentaine d'États, dont plusieurs d'ailleurs ont d'ores et déjà décrété l'état d'urgence pour débloquer des ressources fédérales. Au point que le président américain, lequel minimisait pourtant il y a encore quelques jours à peine l'épidémie, semble avoir pris hier la mesure du risque sanitaire. D'autant que le coronavirus est lui-même dangereusement rapproché de la Maison-Blanche, et en l'occurrence de son locataire Donald Trump, personnellement en contact avec des élus mis en quarantaine. C'est une correspondance à Washington, signée Grégory Phillips.
Désormais, les conférences de presse à la Maison-Blanche sont quasi quotidiennes. Et c'est le président lui-même qui prend la parole, annonçant hier soir des mesures économiques. On va travailler avec les entreprises, les petites comme les grosses, afin qu'elles ne soient pas pénalisées. Ce n'est pas leur faute, ce n'est pas la faute de notre pays. Mais jusque-là, on a bien géré cette situation. À Washington, la tonalité a donc changé. Et Donald Trump, qui il y a un mois encore minimisait l'ampleur du risque sanitaire. Ce virus va disparaître comme par miracle en avril, affirmait-il à ses supporters du New Hampshire. Donald Trump donc promet que 4 millions de tests seront bientôt disponibles dans tout le pays. La menace du coronavirus se rapproche en tout cas des lieux de pouvoir. En tout, 5 élus du Congrès se sont d'eux-mêmes placés en quarantaine par mesure de précaution. Ils ne présentent pas de symptômes, mais 3 d'entre eux ont côtoyé Donald Trump récemment. On ne sait pas si le président a été testé ou non, mais en tout cas, lors de ses déplacements, on l'a vu hier en Floride, il serre encore la main de ses supporters.
Et l'espoir donc de nouvelles mesures de grande ampleur pour soutenir l'économie américaine promise hier par Donald Trump, associé au rebond des prix du pétrole, a visiblement soulagé les marchés au lendemain de la pire journée qu'elles aient connue depuis la crise de 2008. Les bourses asiatiques ont toutes limité les dégâts aujourd'hui en clôturant à la hausse. Quant aux places européennes, elles ont également repris des couleurs ce matin entre plus 2,5 et 3%. Seule exception, mais de taille, la bourse de Moscou a elle ouvert en chute libre de plus de 10%. Direction la France, à présent, où le bilan du coronavirus est passé hier à 1412 cas confirmés, soit 286 de plus que la veille, dont au moins 25 mortels. On recense par ailleurs 66 cas graves. Dès lors, comment s'organisent les hôpitaux confrontés au nouveau coronavirus? En Ile-de-France, par exemple, outre l'hôpital Bichat et la Pitié-Salpêtrière, 2 autres établissements sont désormais des centres de référence, à la fois donc pour accueillir les malades potentiels, mais aussi pour effectuer des tests de dépistage. Alors c'est le cas de l'hôpital Henri Mondora de Créteil, mais aussi l'hôpital Avicenne à Bobigny, où l'affluence d'Arache-Légel n'est pas prête de diminuer.
Sur 24 lits du service de réanimation d'Avicenne, 8 vont être dédiés pour l'instant au coronavirus. Normalement, ils accueillent des malades sous surveillance moins drastique. Là, au contraire, il va falloir que le personnel soit dédié, réservé exclusivement à ces patients contagieux. Certains gestes changent aussi, précise le docteur Tanjaoui Lambiote.
Habituellement, en réanimation, on est tous habillés en pyjama et ce qu'on fait avant d'entrer dans chaque chambre, c'est qu'on se désinfecte les mains avec une solution hydroalcoolique en entrant et en sortant de la chambre. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est se désinfecter les mains comme d'habitude, mais il va falloir porter une casaque, porter des gants, porter une charlotte, et surtout porter un masque et des lunettes, ce qui représente un temps d'habillage qui est loin d'être anecdotique, surtout lorsqu'il est répété au cours de la journée.
De quoi mettre le service, qui était en grève ces derniers mois, un peu plus sous tension. Autre département très sollicité, le laboratoire de virologie. Un centre de dépistage vient en effet d'être installé dans un préfabriqué à Avicenne. 45 malades s'y sont présentés hier. Conséquence, il faut faire 15% de tests supplémentaires. Et pour cela, les effectifs n'ont pas été renforcés, regrette le virologue Chakib Alloui.
On est exactement à moyen constant. On nous a promis une technicienne. Elle a été embauchée en CDD il y a un ou deux jours. Donc, elle est absolument pas formée. Donc, c'est assez tendu puisqu'on a été obligé de demander à notre personnel de travailler en mode volontaire pour assurer les samedis, pour assurer probablement les dimanches qu'on va mettre en place à l'avenir. Et nous, biologistes, on n'est pas très, très nombreux. On n'est que trois. D'où le caractère tendu.
Le virologue ajoute qu'on a promis d'autres machines, des extracteurs, à son labo. Elles ne sont pas encore arrivées. Il faut 4 à 5 heures de manipulation avant d'obtenir un résultat. Plusieurs patients ont déjà été testés positifs à Avicenne. On va tenir, disent les équipes. Mais jusqu'à quand? L'affluence n'est en effet pas près de diminuer.
Après 7 cas avérés de coronavirus à l'Assemblée nationale, dont 5 députés, le gouvernement a lui enregistré hier son premier cas. Le ministre de la Culture, Franck Riester, de son côté, l'Élysée a nettement renforcé depuis ce matin les mesures de protection autour d'Emmanuel Macron et de ses collaborateurs, en limitant notamment visites et réunions, même si en l'occurrence, le chef de l'État se trouve en ce moment même au centre d'appel et de régulation du SAMU de l'hôpital Necker à Paris. Et puis, signe là encore que la maladie se diffuse partout, la campagne municipale se retrouve elle-même grippée aujourd'hui par le coronavirus. De plus en plus de candidats annulent leurs meetings, en particulier à cause de l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes ou par peur tout simplement de participer à la propagation du virus. Et la vigilance va même en réalité plus loin encore. Nicolas Joly, bonjour.
Bonjour.
Elle provoque des changements jusque dans les comportements des aspirants maires sur le terrain.
Mais oui, avec l'épidémie, on est censé ne plus se faire la bise et bannir la poignée de main, c'est-à-dire l'exact opposé de ce que font habituellement les candidats sur les marchés. Ça n'empêche pas la plupart de continuer avec la petite bouteille de gel hydroalcoolique dans la poche, mais on voit fleurir ça et là des salutations alternatives. On ne se prend plus dans les bras, on se check en se touchant le bout du coude ou du pied. Une candidate lilloise a opté, elle, pour le salut japonais penché en avant. D'autres se contentent d'un geste de la main à la manière de la reine d'Angleterre. Alors ça ne correspond pas vraiment aux habitudes des Français. Selon un sondage IFOP paru hier, les trois quarts d'entre nous se serrent encore la main. Mais les candidats doivent montrer l'exemple. Surtout, ils ne peuvent pas risquer de tomber malade, sous peine d'être placés en quatorzaine chez eux, comme le ministre de la Culture Franck Riester, testé positif hier. Ça les empêcherait tout simplement de faire campagne. Car oui, malgré l'épidémie, il faut se montrer, surtout lorsque l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes empêche d'organiser ces meetings. C'est là qu'interviennent la technologie et les réseaux sociaux. Plusieurs têtes de liste ont déjà annoncé des meetings virtuels, filmés en direct. Les candidats feront leur discours et répondront aux questions des internautes à la manière d'un Facebook Live, un moyen de rassembler du monde sans courir de risque, mais qui implique de s'exposer aussi bien à ses soutiens qu'à ses opposants, voire à des attaques gratuites.
Merci Nicolas Joly. Alors la campagne des municipales n'est pas le seul sujet aujourd'hui à faire les frais du coronavirus. Nombre de questions ont aujourd'hui désarté le débat politique, c'est le cas en particulier de la réforme des retraite pour laquelle la bataille est pourtant loin d'être achevée. Le texte est attendu au Sénat fin avril, où les élus communistes ont d'ores et déjà promis un long débat. De son côté, le gouvernement, sous tension donc entre coronavirus et élections municipales, n'a pas fermé la porte à un éventuel report de 15 jours pour attendre les conclusions de la conférence de financement. Enfin, côté rue, une nouvelle journée de mobilisation est annoncée le 31 mars. À ce titre d'ailleurs, se tient depuis ce matin à Nancy le 44e congrès fédéral de la CGT cheminée. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Vous êtes sur place. Alors, il doit notamment être question à ce congrès, Hakim, de la suite à donner au mouvement contre les retraites. Et visiblement, même si pour l'instant l'heure est donc plutôt à la pause, le secrétaire général de l'organisation n'exclut pas une reprise du mouvement dans les prochaines semaines, Hakim.
Et oui Thomas, malgré 50 jours de grève, une grève historique à la SNCF, et malgré des fiches de paie quasi blanches en janvier et février, la détermination reste intacte encore plus après le passage en force du gouvernement avec le recours au 49-3. Résultat, la CGT cheminots n'exclut pas une reprise du mouvement sous différentes formes, une fois la crise du coronavirus passée, comme nous l'explique Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT cheminots.
Sous la forme de la grève évidemment, potentiellement de la grève reconductible, les grèves effectivement rectangulaires, comme on appelle ça, sont aussi évoquées. Il y a beaucoup de réflexions sur la stratégie, parce qu'en fait, on voit que ce gouvernement ne respecte pas les règles du débat à l'Assemblée nationale, puisqu'il passe en force. Et donc, ce qui traverse aussi la réflexion des salariés, c'est de dire pourquoi est-ce que nous, on continue à les respecter? Pourquoi est-ce que nous, on est dans des formes classiques, etc. Donc, on verra ce qui ressortira de nos débats. C'est justement le principe des débats, c'est qu'on peut pas les faire à l'avance. Mais en tout cas, la bataille, elle est pas terminée. Et dans la tête de nos camarades, il n'y a pas de défaitisme.
Une bataille loin d'être terminée aussi sur la question du financement, puisque la CGT a déjà indiqué qu'elle se retirait de la conférence sur le financement des retraites que doit prévoir le gouvernement et organisera de son côté un contre-sommet, la CGT, le 24 mars prochain. Quant à la prochaine journée d'action, elle est déjà prévue le 31 mars et la CGT appelle déjà à une paralysie des transports ce jour-là sur l'ensemble du territoire.
Merci Hakim Kasmi en direct de Nancy ainsi qu'à Thomas Robin pour les moyens techniques. Place à l'accusation au procès Fillon, le parquet national financier prendra cet après-midi ses réquisitions contre l'ancien Premier ministre, son épouse Pénélope et son ancien suppléant. Tous trois jugés à Paris pour les soupçons d'emploi fictif de Madame Fillon. Les prévenus en cours jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, de lourdes amendes et des peines d'inéligibilité. Lors d'une conversation que l'on qualifiera de franche, les dirigeants de l'Union européenne ont exhorté hier la Turquie à respecter les termes d'un accord visant à éloigner les migrants des frontières européennes et ce en préalable à toute aide supplémentaire au gouvernement d'Ankara dans la crise syrienne. De leur côté, la chancelière Angela Merkel et le chef de l'État Emmanuel Macron se rendront le 17 mars prochain à Istanbul pour de nouvelles discussions donc sur les migrants et la Syrie avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Même si dans un pays en guerre, depuis des décennies, toute tentative d'instaurer la paix est positive. Certaines images ne trompent pas et c'était le cas en particulier en Afghanistan lorsque les deux prétendants au trône, Ashraf Ghani d'une part, vainqueur proclamé de la dernière élection, et Abdullah Abdullah d'autre part, perdant officiel du scrutin, se sont chacun proclamé président lors de cérémonies séparées à Kaboul. Une double prestation donc qui ne peut évidemment que jeter le trouble sur les perspectives de réconciliation et au-delà l'avenir politique du pays tout entier. Sans compter que le moment ne pouvait être plus mal choisi après l'accord de paix conclu le 29 février entre les États-Unis et les talibans. C'est aujourd'hui en effet que sont censés débuter à Oslo des négociations inter-afghanes. Or, toute division au sein de l'exécutif ne fera nécessairement qu'affaiblir Kaboul et renforcer de facto les positions des insurgés. Je vous propose d'écouter l'analyse de Georges Lefeuvre, chercheur associé à l'IRIS, ancien conseiller diplomatique de l'Union européenne sur l'Afghanistan, joint au téléphone par Christian Chesneau.
Il ne s'est jamais agi d'accord de paix, mais d'accord permettant aux Américains de se retirer de ce bourbier. Et c'est en effet pour Donald Trump un impératif de ramener les gars à la maison avant les élections présidentielles aux USA de novembre. Voilà, donc on est dans une situation qui est celle-là, qui donne beaucoup plus de poids politique aux talibans qu'ils ne devraient jamais en avoir eu. Et tout se passe en plein milieu d'une crise institutionnelle. Voilà qu'on se retrouve dans une même situation qu'en 2014, où les deux challengers, les deux concurrents, c'est-à-dire Abdullah Abdullah d'une part et le président Ashraf Ghani d'autre part, clament l'un et l'autre leur victoire. Et évidemment, les négociations qui devaient s'engager avec les talibans ne peuvent pas avoir lieu, ça devait commencer aujourd'hui. Donc en fait les talibans, mettons-nous maintenant de leur côté un petit peu, ils n'ont pas d'interlocuteur. Donc ils sont en position d'avoir déjà pratiquement gagné ce qu'ils souhaitaient obtenir. Mais en gros, le gouvernement, en pleine crise institutionnelle, ne contrôle véritablement que 30% du pays.
Voilà, Georges Lefeuvre, donc chercheur associé à l'IRIS, joint par Christian Chesneau. Et puis toujours s'agissant de l'Afghanistan, j'ajoute que les États-Unis ont demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de se prononcer aujourd'hui pour endosser via une résolution l'accord conclu avec les talibans. Une démarche rarissime dans l'enceinte de l'ONU et d'autant plus étonnante d'ailleurs que cet accord entre États-Unis d'un côté et guérilla de l'autre comporte deux annexes secrètes sur la lutte antiterroriste que les membres du Conseil de sécurité devront approuver, mais sans en prendre connaissance. Quoi qu'il en soit, la position sur le texte de la Russie, notamment dotée d'un droit de veto, reste encore incertaine. L'invité de la rédaction aujourd'hui, Eric Fotorino, journaliste, patron de presse, écrivain. Vous venez de publier la semaine dernière aux éditions de l'Aube un essai intitulé « La presse est un combat de rue », allusion à une citation de Pierre Bourdieu sur la sociologie. Vous lancez par ailleurs dans un nouveau projet un hebdomadaire donc baptisé « Légende ». Bonjour monsieur.
Trimestriel.
Trimestriel. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Éric Chavreau. Bonjour Éric.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Bonjour.
Vous qui dirigez donc Le 1, qui avait notamment dirige également Le Monde. Une première question d'actualité, que pensez-vous du traitement médiatique de l'épidémie de nouveau coronavirus? Certains disent que la presse en fait trop.
Alors la presse, les médias, on l'a entendu, votre journal, il est évidemment très largement consacré à ce phénomène qui est à la fois mondial, inquiétant. Il y a beaucoup de questions qui se posent, donc je pense qu'il est normal qu'on en parle et qu'on en parle beaucoup. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un tel... l'univers médiatique est organisé aujourd'hui de telle manière qu'il y a une sorte de répétition, de bégaiement permanent, c'est-à-dire qu'on ouvre un écran, on parle du coronavirus, on lit un journal, il y a le coronavirus, on écoute la radio. Voilà, c'est cet effet d'accumulation qui, je pense, crée une sorte de trop-plein. C'est pas le fait d'en parler en soi. Après, dans la hiérarchie de l'information, c'est vrai que, je pense, la manière dont on en parle est une manière souvent anxiogène. Je vois certaines chaînes de télévision qui mènent une sorte de générique et de musique, presque, on dirait la musique de la série d'autrefois Les Envahisseurs, et il y arrive quelque chose de très inquiétant. Et donc, je pense que la mise en scène qui peut être faite sur certains médias peut contribuer, enfin, est un peu inutile.
Bonjour Eric Fotorino. Bonjour. Votre essai n'est pas une nécrologie, écrivez-vous.
Oui.
Vous expliquez que l'idée vous en est venue à la fin de l'année dernière,
oui.
en 2019, parce que vous avez bien cru voir mourir le 1, notamment.
Oui.
Alors pourquoi cette mort ou cette petite mort?
Mais non, c'était, je pense, le souffle de la mort d'un titre de presse. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'à un moment donné, c'est toujours le tiroir caisse qu'il faut regarder. Et le tiroir caisse, il dépend de quoi? De vos coûts et de vos recettes, tout simplement. Et ce que je voyais, c'était que du côté de notre imprimeur, on avait des conditions de plus en plus drastiques, c'est-à-dire payer du papier cash, essayer de limiter la gâche du papier quand on imprime. Et pourquoi la gâche du papier? Parce que ces machines étaient froides. Et pourquoi étaient-elles froides? Parce qu'ils n'impriment plus assez de journaux pour qu'elles tournent en permanence. Donc vous voyez, ça, ce sont des détails vrais qui vous montrent que la presse est une industrie, la presse écrite est une industrie, et que cette industrie, elle a des fragilités graves lorsque la diffusion s'effondre. Donc d'un côté, du côté de la production, on voyait des conditions de plus en plus difficiles. On fait plus crédit pour acheter du papier. Or, lorsque vous faites un journal, que vous imprimez un journal, la recette de ce journal, elle est évidemment différée au moment où non seulement vous aurez vendu votre journal en kiosque pour l'essentiel, mais que l'organisme qui diffuse les journaux, qui s'appelle Prestalis, vous aura reversé cet argent. Et alors, c'est bien là le problème, c'est que Prestalis reverse l'argent quand il y pense, et souvent il y pense très tard.
Ça, c'est une question assez complexe hein, pour le grand public, la distribution. Vous allez même jusqu'à parler de racket.
Oui, parce que si vous voulez, on est aujourd'hui dans un système qui est en faillite depuis des années. La faillite n'est pas prononcée parce que l'État a contribué, parce que les éditeurs ont contribué, mais vous avez un certain nombre d'éditeurs qui dirigent réellement ce groupement de diffusion et qui ne payent pas le montant qu'ils devraient payer pour les services rendus à leurs propres journaux, notamment les quotidiens. Donc on est dans un système où les magazines payent pour les quotidiens, ça s'appelle la péréquation. Et donc si vous voulez, de plus en plus, les quotidiens sont subventionnés, je dirais, par les magazines.
Et vous êtes menacé de mort, les conséquences?
Bien sûr, on parle maintenant d'un règlement judiciaire de Prestalis, donc les anciennes NMPP, le 26 mars. Je ne sais pas si le 26 mars ce sera acté. Mais il faut savoir que lorsque vous vendez des journaux comme nous, c'est-à-dire Le 1, Zadig, America, vous engagez vos journaux dans le système de distribution et vous attendez vos recettes. Et les recettes, elles arrivent entre 120 et 150 jours plus tard. Autrement dit, toutes ces créances que nous avons auprès de Prestalis, s'il fait faillite le 26 mars, elles seront prisonnières, bloquées dans les tuyaux. Pour ce qui est de mon petit groupe de presse, c'est quasiment 840 000 euros qui peuvent, du jour au lendemain, ne pas m'être versés. Et je parle pour nous, mais il y a 250 petits éditeurs sans publicité indépendants qui vivent la même chose.
Il y a eu un acte très fort il y a quelques jours, c'est l'ensemble de la rédaction des Cahiers du cinéma qui a fait jouer sa clause de conscience par rapport à, en dénonçant le profil des nouveaux actionnaires, donc Xavier Niel et Alain Veil, le même Xavier Niel qui pourrait aujourd'hui même devenir l'actionnaire unique de France Antilles, qui est le seul quotidien dans les Antilles et en Guyane. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de ce nouveau panorama des actionnaires de presse?
Ben, si vous voulez, c'est je pense ce qui est en train de se passer, c'est que si Prestalis fait faillite, si les petits éditeurs comme nous, mais comme Politis, comme Oui Demain, comme bien d'autres, disparaissent parce qu'ils n'ont pas la trésorerie pour faire face à ce manque à gagner, eh bien, nous serons dans un régime où clairement l'information écrite ne sera plus liée qu'à l'argent. c'est-à-dire qu'à ceux qui détiennent l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 5-6 milliardaires qui détiennent en effet les grands groupes de presse. C'est Le Monde, l'Obs, Télérama. C'est évidemment Dassault avec Le Figaro. C'est Bernard Arnault avec Les Échos et Le Parisien. C'est Patrick Drahi avec Libération et L'Express, etc.
Peu importe le financement participatif, comme pour votre trimestriel Légende.
Oui, c'est-à-dire que le financement participatif, je suis très heureux de le faire sur KissKissBankBank pour Légende, qui marche très bien en ce moment. Mais ce n'est pas sain de se dire qu'on ne peut être financé que parce que des lecteurs vont payer avant même de voir un journal. Je pense qu'on est aujourd'hui dans un pays où l'aide à la presse ne fonctionne pas comme il faudrait. On donne de l'argent de poche à des milliardaires par des fonds publics, 5-10 millions d'euros. Et vous n'avez pas une banque, pas une seule, qui vous prête de l'argent quand vous dites « je veux mener un projet de presse indépendante ». Pas une seule. Comme je dis souvent, les banquiers vous prêtent de parapluie quand il fait beau. Mais quand vous avez besoin, parce que justement, il faut financer une presse indépendante sans actionnaire de référence, sans publicité, c'est ce que je fais. Et je ne me prétends pas être un modèle. Je dis simplement, c'est aujourd'hui la condition nécessaire pour qu'on retrouve quelque chose qui s'est perdu ces dernières années, c'est la confiance des lecteurs.
Et on terminera par ces mots. Merci Eric Fotorino, patron, je le rappelle, du 1-2 Zadig America. Et bientôt, on vous le souhaite, Légende, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle également le titre de votre dernier essai, La presse est un combat de rue, publié aux éditions de l'Aube. Merci également Eric Chavreau. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi encore perturbé sur une grande moitié nord du pays. Avec de fréquents passages pluvieux au sud, le temps alternera entre éclaircies et passages nuageux. Trois départements, la Seine-Maritime, l'Eure et la Gironde, ont par ailleurs été placés en vigilance orange inondable. Quant aux températures, elles afficheront entre 9 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.